grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse à l'hyperactivité et plus exactement au TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Un trouble trop souvent galvaudé, souvent accolé de façon superficielle aux enfants turbulents, aux adultes impatients. Nous verrons ce matin quelles sont les principales idées reçues sur l'hyperactivité, quels sont les symptômes repérables, comment les spécialistes diagnostiquent ce trouble neurologique, comment le soigner, comment l'entourage ou l'école peuvent accompagner un hyperactif. Élément de réponse ce matin avec nos invités, les pédopsychiatres Eric Acquaviva et Gabriel Val. Si vous êtes hyperactif ou si votre enfant l'est, appelez-nous au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à témoigner sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Le professeur de philosophie que j'aurais aimé avoir au lycée. Et que vous inspire notre thème du jour?
Aurais-je aimé vous avoir comme élève?
Ah oui, ça c'est la question.
Eh bien nous allons voir qu'il nous faut tout simplement faire attention à notre attention.
Tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébé.
Et pour évoquer quelques idées reçues sur l'hyperactivité, Gabriel Val, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre et vous avez publié Le Que sais-je au PUF consacré à l'hyperactivité. Bonjour Eric Acquaviva.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris et vous publiez au Cavalier Bleu les idées reçues sur l'hyperactivité. Pouvez-vous nous expliquer clairement ce qu'est l'hyperactivité, autrement appelée TDAH? Gabriel Val, comme son nom ne l'indique pas, l'hyperactivité ne désigne pas seulement un excès d'activité.
Oui, alors, dans l'usage, hyperactivité et TDAH sont presque synonymes, probablement à tort, puisque hyperactivité met l'accent sur l'agitation, alors que TDAH explicite que le fond de l'affaire, le primum movens, c'est le trouble de l'attention, et que l'agitation est facultative, puisque TDAH, ça signifie trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc à la limite, on peut avoir un hyperactif non hyperactif, je m'explique, c'est-à-dire un hyperactif au sens du diagnostic global, mais qui n'est pas hyperactif au sens de l'agitation.
Expliquez-nous, donnez-nous un exemple
alors,
concret.
De façon très concrète, vous avez l'enfant turbulent, l'enfant tourbillonnant. Il y a une semaine, j'ai un enfant de 8 ans qui m'a dit qu'il faisait la roue dans la classe. Alors c'est pas sur ça qu'on fait un diagnostic, mais en tout cas ça ne l'invalide pas. Et à l'inverse, vous avez des enfants qui sont constamment dans la lune, qui décrochent constamment, qui ne sont pas capables d'avoir d'endurance attentionnelle, et ils rentrent dans la même catégorie, c'est-à-dire que l'on peut être TDA avec ou sans H, c'est-à-dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Eric Acquaviva, précisez-nous un peu les choses à votre manière.
Effectivement, c'est un trouble qui peut avoir des présentations différentes. D'ailleurs, on se doit de spécifier lorsqu'on fait le diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la présentation clinique. Il y a donc des présentations avec une simple hyperactivité motrice, une instabilité motrice, comme l'a dit le docteur Val,
l'agitation.
Des enfants qui s'agitent, etc. Et des présentations cliniques où ne sont présents que les symptômes de déficit de l'attention avec des enfants mais qui ont du mal à se concentrer de façon prolongée en classe, qui sont dans des rêveries ou alors qui oublient en permanence leur matériel, etc. Et puis des formes mixtes qui associent l'un et l'autre. Il faut savoir également que ces présentations cliniques, c'est d'ailleurs l'objet des dernières classifications, peuvent évoluer au fil du temps.
Pour la clarté du débat, on parlera d'hyperactivité ce matin. Gabriel Val, d'ailleurs, c'est le titre de vos ouvrages, hein, idées oui. reçues sur l'hyperactivité, l'hyperactivité.
L'hyperactivité, puis entre parenthèses, TDAH quand même.
Ouais, exactement. Enfin non, pas sur votre à la couverture.
Parce
de
que vous avez un ancien bouquin.
Ouais, bon, bah,
le
tiens.
Tout récent.
Bah, moi j'ai l'ancien, vous voyez.
C'est un vintage là. Hein.
Exactement.
Il a une dizaine d'années celui-là.
Est-ce que c'est un trouble psychologique ou un trouble neurologique, le TDAH?
C'est toute la question. Et là, on est au cœur de notre sujet sur les idées reçues. Pour une grande partie des pédopsychiatres et des neuropédiatres à l'échelle de la planète, c'est un trouble neurobiologique. Mais en France, la psychanalyse étant très prégnante, c'est plutôt considéré comme un trouble psychologique. Et donc, on a trois idéologies qui se partagent le marché. La première, c'est donc ce que j'appellerais l'idéologie neurobiologique, mais je mets idéologie entre guillemets puisque je crois que la science confirme en effet que ce trouble est d'origine biologique. La deuxième idéologie, c'est la faute des parents. Donc on est dans le registre de la responsabilité parentale sur le plan affectif, sur le plan éducatif. Donc on est plutôt dans une orientation psychanalytique, c'est-à-dire qu'on va considérer ce trouble comme étant en lien premier avec des troubles affectifs, des troubles éducatifs. Et donc on va mettre, si j'ose dire, en cause les parents, de façon soit discrète, soit culpabilisante. Et la troisième idéologie, c'est la faute de l'enfant. Donc là, ce serait plutôt le monde enseignant, c'est-à-dire que c'est un manque de maturité, un manque de volonté, un manque d'effort. Et donc, il y a soit la faute de la biologie, si j'ose dire, soit la faute des parents, soit la faute de l'enfant. Naturellement, tout cela peut se mixer et donc on peut avoir un discours enseignant classique qui met en cause quand même les parents, etc. Donc, on a un univers, et les parents d'enfants hyperactifs le vivent de façon parfois très douloureuse, on a un univers de responsabilisation, de culpabilisation, soit de l'enfant, soit des parents, alors que c'est un trouble biologique qui peut être considéré à l'égal de tout trouble biologique ou somatique.
Éric Acquaviva.
Je crois que pour répondre à cette question, il faudrait peut-être contextualiser sur l'émergence historique en fait du trouble du déficit de l'attention.
C'est une histoire assez tourmentée. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, il y a bien sûr eu des descriptions, des signes cliniques de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et notamment au 19e siècle, de façon assez précise. Mais au début du 20e siècle, il y a un pédiatre qui s'appelle Steele, qui a posé l'hypothèse que des lésions neurologiques minimes, réelles ou supposées, pouvaient être à l'origine de troubles comportementaux de l'enfant, notamment d'une agitation motrice et de déficit de l'attention. Et puis ces hypothèses ont été, au fur et à mesure, tout au long du XXe siècle, confirmées d'une part par, notamment, alors il y a eu, après la Première Guerre mondiale, une épidémie de méningoencéphalite qui était associée chez les enfants à des troubles comportementaux. Et puis on s'est aperçu que bien les traitements, notamment amphétaminiques, pouvaient avoir une efficacité. Bref, ont émergé toute une série d'arguments qui ont convergé vers une hypothèse neurobiologique, organiciste, du trouble du déficit de l'attention, qui s'appelait d'ailleurs initialement le Minimal Brain Damage Syndrome, ce qui veut bien dire des altérations neurologiques. Et puis, ce nom a évolué petit à petit par le Mini Brain Damage Dysfunction, et puis le syndrome hyperkinétique et le trouble du déficit de l'attention. Donc c'est vrai que, historiquement, l'hypothèse organiciste et neurobiologique est centrale.
C'est un trouble reconnu aujourd'hui par le DSM, hein, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, hein, la bible de la psychiatrie nord-américaine, hein, Gabriel Valle.
Oui, c'est reconnu par le DSM-5, mais également par CIMDIS, qui est l'équivalent de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Donc en effet, à l'échelle internationale, ce diagnostic n'est pas contesté. Encore une fois, c'est en France où ces débats persistent. Mais sinon, c'est un trouble, en effet, qui doit être considéré comme neurobiologique.
Éric Acquaviva.
Oui, tout à fait. Alors, il existe dans les classifications internationales, mais je dois dire que, d'un point de vue purement sémiologique, il existe aussi dans la classification qu'on appelle la CFTMEA, qui est la classification française, cette fois-ci, qui a un support beaucoup plus psychodynamique et psychanalytique, et qui pose là pour le coup des hypothèses très différentes sur l'émergence de ces symptômes qui auraient un postulat bien plus psychodynamique lié à des conflits psychiques qui se manifesteraient par l'instabilité motrice notamment.
Alors certains critiques, complotistes peut-être, pensent que l'hyperactivité est un trouble inventé par les psychiatres et l'industrie pharmaceutique pour vendre des médicaments. Gabriel Valle.
Oh, c'est un procès qui n'en finira probablement jamais, puisque en effet l'un des traitements les plus appropriés et les plus efficaces, ce sont des médicaments. Donc on pourra toujours soupçonner en effet des interférences entre le goût du commerce des laboratoires pharmaceutiques et le goût du diagnostic de certains psychiatres. Bon, c'est un procès naturellement que je considère que on doit considérer plus précisément les psychiatres comme innocents, parce que ceux qui prescrivent ce médicament le font avec conscience et conviction, parce qu'ils observent des changements dans la vie des enfants et dans la vie des familles qui sont parfois véritablement très performants.
Pensez-vous que le terme hyperactivité est galvaudé dans le langage courant et dans les médias, Éric Acquaviva?
Oui, les galvaudés, d'une part, parce qu'on vient de préciser que la réalité du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité était plus complexe, avec une composante d'inattention et d'hyperactivité. Il est galvaudé aussi parce que toute hyperactivité de l'enfant n'est pas une hyperactivité. Un enfant peut être agité, peut être instable sur le plan moteur, pour diverses raisons, parce qu'il est anxieux, parce qu'il est déprimé. Et donc, en ce sens, il convient d'être très prudent dans le cadre du diagnostic du trouble de déficit de l'attention à contextualiser les symptômes.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse aux différents groupes de symptômes de l'hyperactivité. Si vous êtes hyperactif ou si votre enfant l'est, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Alexia Lacour et Laura Laplou m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bauve et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Les jours de ma vie s'en vont sans que j'ai pu retenir le son. Je sais que l'amour est là, infiniment troublant, attendant d'être vu. Quand viennent les coups de grisou, la vie demande tant de vous. Je me demande à quel vent de l'enfer une fois j'ai obéi tout bas.
Notre réalisatrice Stéphanie Texier qui connaît par cœur les paroles de « Doux dehors, fou devant » de Véronique Sanson.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce qu'il est chiant ce gosse.
À mon avis, c'est un hyperactif. Il faut l'amener voir un psy.
Pourquoi?
C'est pas normal d'être un knap comme ça tout le temps.
Sur France Inter.
doux dehors, fou dedans, évidemment, me dit Stéphanie Texier dans le casque. 10h21, on s'intéresse ce matin aux idées reçues sur l'hyperactivité avec les pédopsychiatres Éric Aquaviva et Gabriel Val.
Un enfant qui est malade, il est hyperactif, il bouge beaucoup, il peut pas rester en place très longtemps.
Et je proteste.
Et d'abord que moi je suis hyperactif, mais que je suis pas malade et d'abord.
C'est pas vrai.
Hein, comment ça c'est pas vrai? Et que si moi je suis pas malade, hein, mais je suis quand même hyperactif. Mais non, qu'est-ce que tu racontes?
Hyperactif,
qu'est-ce que
c'est une maladie?
T'as enregistré
tout ce qu'ils ont dit depuis le début?
Mais qui t'a dit que t'étais hyperactif?
Eh ben, tout le monde, et moi-même.
Mais oui, une maladie.
Parole d'enfant dans un reportage de Caroline Cartier sur France Inter en 2003. Gabriel Val, Éric Aquaviva, il existe donc trois groupes de symptômes dans l'hyperactivité, ou plus précisément dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'abord, le déficit de l'attention qui ne se limite pas à un manque d'attention, Gabriel Val.
Alors, c'est effectivement le cœur du trouble. Et il se caractérise par un certain nombre de symptômes. Par exemple, le fait de faire des erreurs d'étourderie, le fait de décrocher, le fait d'avoir plusieurs idées en même temps, le fait d'oublier ses affaires, etc. À l'instant, Éric Aquaviva disait qu'il fallait contextualiser. Alors, en effet, je crois que le premier critère diagnostique pour distinguer l'inattention liée à des événements psychologiques et l'inattention liée au trouble, c'est cette formule qui permet de le résumer très simplement, c'est depuis toujours et en tout milieu. C'est-à-dire qu'on peut être, bien sûr, distrait le lundi, agité le mardi, mais quand on a un TDAH, on l'est depuis toujours et en tout milieu. C'est naturellement une généralité, il y a des exceptions. Par conséquent, il faut avoir la conviction pour porter le diagnostic que cela relève de la nature de l'enfant et non pas de la que ce soit lié à des événements particuliers.
Pour le dire clairement, Éric Aquaviva, avoir des difficultés attentionnelles ne veut pas dire que l'on soit hyperactif ou qu'un enfant est hyperactif.
Non, comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant qui est anxieux peut avoir des difficultés d'attention et de concentration. Il s'agit effectivement de symptômes très peu spécifiques. En fait, il y a 9 symptômes décrits dans les classifications et 6 symptômes sont requis pour qu'un diagnostic de trouble de déficit de l'attention puisse être fait. Mais tout un tas de conditions sont associées au diagnostic. La première d'entre elles, effectivement, est de contextualiser ces symptômes. On l'a dit, le docteur Val l'a dit, d'une part, en fait, de voir en fonction de l'ancienneté de l'apparition des symptômes. Il y a un âge d'apparition minimum des symptômes qui est 12 ans. Au-delà, le diagnostic ne peut être fait. Mais aussi en fonction de l'âge développemental de l'enfant. Il est bien sûr pas, la lecture d'un symptôme ne va pas du tout être la même en fonction que l'enfant oublie ses affaires à l'âge de 6 ans et à l'âge de 10 ans, l'interprétation sera totalement différente. Et puis bien sûr, la façon dont et les lieux où s'expriment ces symptômes. Si un enfant aura des difficultés attentionnelles uniquement en classe et pas à la maison, là aussi le diagnostic mérite d'être repensé.
Du point de vue de l'attention, qu'est-ce qui doit alerter les parents ou les enseignants, Gabriel Val?
La constance des troubles, avec néanmoins une précision, c'est qu'il y a au moins 2 petits registres qui peuvent atténuer les troubles. C'est d'une part la passion. C'est d'ailleurs avec cet argument-là souvent qu'on récuse le diagnostic, puisque beaucoup de parents disent « Oh ben non, il n'a pas de problème d'attention, je peux vous dire que quand il est sur les jeux vidéo, il n'y a aucun problème ». Donc la passion est probablement le meilleur remède naturel de ce trouble, et parfois aussi la crainte, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, en consultation médicale, qui peut être un peu craintif, va se tenir à carreau, va être particulièrement sage, ne va pas bouger du tout, et là aussi, il ne faudra pas récuser le diagnostic, et parfois des parents me disent que certains médecins ont dit « Oh ben non, il n'est pas hyperactif, parce que sinon il serait déjà sur mon bureau. » Sous-entendu, il aurait déjà escaladé mon bureau. Donc, il faut qu'il y ait à la fois de la constance, depuis toujours et en tout milieu, mais il faut admettre bien sûr qu'il y a un certain nombre d'exceptions. Et d'ailleurs, il y a parfois des années un peu bénies où un maître, soit parce qu'il est particulièrement convivial, soit parce qu'il est particulièrement terrorisant, va faire qu'une année va être presque assagie. Donc, dans les parcours scolaires, parfois, alors que le trouble n'a pas cessé de se manifester, manifester par ailleurs, il peut y avoir des années plus paisibles.
Deuxième grand symptôme, l'hyperactivité au sens propre ou agitation. Agitation physique, Eric Acquaviva?
Oui, c'est effectivement des symptômes. Il y a deux groupes de symptômes dans ce qu'on appelle l'instabilité motrice. C'est l'instabilité motrice et l'impulsivité. Donc effectivement, ce sont des symptômes relatifs d'une part à l'instabilité motrice, des enfants qui ont du mal à rester en place, qui sont en permanence sur la brèche, c'est le terme consacré, et puis des symptômes d'impulsivité, où l'enfant va prendre la parole de façon intempestive, va couper la parole aux personnes avec lesquelles est en train de discuter, et c'est effectivement le deuxième grand groupe de symptômes du trouble du déficit d'attention avec hyperactivité.
Gabriel Val?
Oui, en effet, c'est les deux grands groupes. Moi, j'en ajouterai un quatrième à ces trois groupes de symptômes, mais c'est pas dans la littérature internationale, c'est la familiarité. Les enfants hyperactifs sont parfois à l'aise, comme cela, d'emblée, ils rentrent dans un bureau. Par exemple, ils ne connaissent pas la personne et ils le tutoient. Ils sont très à l'aise. C'est une petite caractéristique qu'il faut ajouter. Mais sinon, en effet, l'agitation et l'impulsivité sont au cœur du diagnostic. Lorsqu'on est avec un TDA, avec H, encore une fois, on peut avoir
H, un hyperactivité.
TDA. Absolument. TDA avec ou sans hyperactivité. Donc, on peut avoir des enfants qui ne sont absolument pas agités, qui ne sont absolument pas impulsifs, en tout cas pas à l'excès, et qui ont seulement le trouble de l'attention.
Eric Acquaviva?
Oui, je veux dire qu'en dehors de ces symptômes qui sont présents dans les classifications internationales, il existe aussi un certain nombre de caractéristiques de fonctionnement de ces enfants qui n'apparaissent pas dans les classifications, mais qui sont très régulièrement associés au trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. L'un d'entre eux, c'est les problèmes de régulation émotionnelle. Ce sont des enfants qui, pour la plupart, ont de grosses difficultés à réguler leurs émotions, qui peuvent piquer de colère, des colères assez intenses, et qui ont du mal à se calmer. Et l'autre type de difficultés, ce sont les difficultés dites exécutives, avec des difficultés de planification, d'organisation. Donc des symptômes qui ne sont pas présents dans les classifications internationales, mais qui ont un impact significatif chez ces patients.
Il existe un lien entre l'hypersensibilité et le TDAH?
Alors effectivement, c'est la notion de tempérament, et c'est une dimension du tempérament qui est retrouvée de façon quasiment la plus constante chez ces enfants-là.
Quels sont vos outils pour diagnostiquer les adultes et les enfants atteints d'un TDAH?
Avant, je voudrais préciser peut-être la dernière question. Les enfants TDAH vivent dans la conflictualité avec leurs profs et leurs parents. Donc, pour simplifier, ils se font engueuler la journée par les profs et le soir par les parents. Donc, ils souffrent. Donc, il y a aussi des effets secondaires psychologiques, notamment la dépression et l'anxiété, qui peuvent être non pas la cause du TDAH, mais la conséquence du TDAH. Sinon, pardonnez-moi.
Sur le diagnostic?
Sur le diagnostic, le diagnostic se fonde sur des critères, notamment ceux de la classification internationale. Pour ce qui me concerne, je dirais que les bulletins scolaires sont une excellente information. On a, surtout pour un enfant qui est au collège, on a 10, 20, 30 témoignages, même si aujourd'hui, avec la règle de la bienveillance, les bulletins scolaires ne sont pas toujours très en adéquation avec la réalité. Mais c'est un élément d'information. Le discours parental, le depuis toujours et en tout milieu, j'y reviens, et puis les critères diagnostiques.
Eric Acquaviva, sur le diagnostic?
Oui, c'est un diagnostic qui est finalement assez délicat à faire, parce qu'il repose, encore une fois, sur la nécessité de contextualiser les symptômes cliniques et donc de recueillir des informations effectivement au sein de l'école, avec des questionnaires notamment parfois auprès des professeurs ou les bulletins scolaires auprès des parents et à l'aide de l'examen de l'enfant. Et puis une chose aussi qui est importante à dire, c'est que le diagnostic est posé en fonction du retentissement qu'entraînent ces symptômes chez l'enfant. Finalement, un fonctionnement de type trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ne signifie pas systématiquement que le diagnostic soit posé.
Bonjour Séverine.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes maman d'un garçon de 7 ans et demi.
Oui.
Et qui est atteint d'un TDAH, c'est ça, avec impulsivité?
Exactement, donc TDAH, impulsivité, hyperactivité physique. Je le reconnaissais très bien dans la notion de familiarité également. C'est un enfant qui, à l'âge de 5 ans, est rentré dans la maison de quelqu'un en enlevant ses chaussures, très poliment. Il connaissait pas la personne, en disant « Bonjour, est-ce que je peux venir visiter ta maison ?» La personne était très étonnée, mais ça, c'est un très bon exemple de familiarité. Dans ce que j'ai écrit, en fait, et je pense que vos intervenants en ont parlé, c'est la notion d'hypersensibilité et le fait qu'ils en souffrent. Moi, je me rends compte que mon fils, bon, il a de très bons résultats scolaires, parce qu'il a, voilà, il est aussi légèrement précoce. Mais ce qui est le plus difficile pour lui, c'est le rapport conflictuel avec les adultes et le fait que lui, je pense, ne se rend pas toujours compte qu'il y a cette familiarité, qu'il est distrait, qu'il peut bousculer parce qu'il ne se rend pas compte qu'il va trop vite, qu'il n'arrive pas à arrêter un mouvement, qu'il n'arrive pas à se retenir, que ce soit dans la parole ou le geste. Et il se sent très vite victime et il souffre intensément de ça, s'entend, pour lui, le monde de l'école est un monde injuste. Et donc, ça vient avec beaucoup d'anxiété.
Séverine, comment vous aviez repéré l'hyperactivité de votre garçon de 7 ans et demi?
Alors, pendant longtemps, je pensais qu'il ne l'était pas, parce que tout le monde me disait, mais il est hyperactif, son fils, déjà quand il avait 4 ans. Et je leur disais, mais il bouge beaucoup, mais il arrive très bien à se concentrer très longtemps quand il aime quelque chose. Et donc, voilà, et ça, c'est un des éléments que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, en effet, dès qu'il y a une passion, il se concentre. Donc, ça, en fait, on a commencé à faire des tests à sa rentrée en CP, quand il a eu de très graves problèmes avec son enseignant. Et donc, on est passé par tous les tests neuropsy. Donc, voilà, là, il est suivi en psychomotricité. Par contre, on ne l'a pas médicamenté. Parce que ses résultats scolaires sont très bons. Il est plutôt suivi en psychomotricité sur l'aspect émotionnel, les bonnes limites face à l'autre. Et moi, j'ai choisi aussi le sport, comme il a besoin de se défouler, les sports d'équipe, les règles, jouer avec les autres, par rapport à ne pas se mettre en danger. Donc, il fait de l'escalade, du cirque acrobatique. Donc, lui, on a opté pour ça pour l'instant.
Très joli témoignage hein, de Séverine Gabriel-Val, très éclairant.
Très éclairant, très précis. J'ai à peine besoin de faire un commentaire, sinon de réexpliciter à nouveau que le TDAH, c'est une incapacité, ce n'est pas une faute morale. Et donc, dès qu'on a bien compris cela, on a un regard sur l'enfant qui est un regard beaucoup plus conciliant et beaucoup moins conflictuel.
Et d'ailleurs, Anouche nous dit sur notre page Facebook, j'ai un fils atteint d'un TDAH et le regard des autres parents est souvent très lourd dans le sens où bien souvent on nous renvoie cette image de parents ne sachant pas tenir son enfant. Non, mon enfant n'est pas impoli quand il pose des questions aux gens avant de leur dire bonjour. Eric Aquaviva.
Ben, effectivement, sont des manifestations des comportements qui sont un peu stigmatisants parfois pour les parents.
Ça culpabilise les parents.
Tout à fait. Alors c'est exactement le mot d'ailleurs qui ressortait d'une étude sociologique qui était assez intéressante sur ce à quoi renvoyait le diagnostic de TDAH chez les parents d'enfants souffrant de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et le premier mot qui revenait chez ces parents était celui de déculpabilisation. Je pense que c'est probablement que c'est assez aidant pour ses parents aussi de mieux comprendre et de contextualiser ces symptômes.
Alexandra, vous le sentez parfois ce regard culpabilisant de la part d'autres parents, d'autres adultes ou même parfois peut-être des enseignants?
Moi je suis adulte TDAH, je suis pas enfant.
Alexandra, pardon, en fait, excusez-moi, Séverine. Séverine.
Oui, absolument. Je le ressens beaucoup, ce regard. Alors, on apprend à avoir une carapace, mais on voit le regard des gens qui se disent « Ah là là, comme tu as mal élevé ton enfant ». Ce qui est plus difficile, je trouve, c'est, et ça, j'aimerais bien entendre vos intervenants là-dessus, c'est comment parler à son propre enfant pour le sortir de cette position ou l'aider à sortir de cette position où il se sent victime d'injustice permanente, parce que c'est quelque chose, enfin moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pas laisser s'installer. J'ai peur que si je laisse ça s'installer, je ne l'aide pas pour grandir. Et c'est très compliqué parce que mon fils a un PAP à l'école qui n'est absolument pas respecté. Le coussin pour hyperactif, refusé. L'objet à mâchouiller, refusé. Être mis dans le coin, face contre le mur, pourtant enfin.
Gabriel Val, répondez à Séverine.
Alors, je crois qu'il faudrait que les enseignants, puisque là il s'agit de l'école principalement, soient sensibilisés à la réalité du TDAH, à considérer, je me répète, mais c'est vraiment une phrase que je considère comme très importante, c'est une incapacité, ce n'est pas une faute morale, c'est-à-dire que quand un enfant est dans la lune, quand un enfant n'écoute pas, quand un enfant fait des fautes, quand un enfant se lève en classe, quand un enfant interrompt le professeur, tout cela est extrêmement désagréable, mais l'enfant ne peut pas faire autrement. Il est donc confronté à un trouble qui le dépasse. Et c'est pas une affaire de maturité, c'est pas une affaire de bonne volonté, c'est pas une affaire d'éducation, bien évidemment. Et c'est tellement vrai que dans des fratries, par exemple, de 3, 4, 5 enfants, même si c'est un trouble essentiellement biologique et génétique, eh bien vous avez un enfant qui est parfaitement paisible à l'école, qui écoute bien, qui a d'excellents résultats, et vous en avez un autre qui est un petit diable. Et dans un cas comme dans l'autre, les parents ne sont pas responsables pour l'un et irresponsables pour l'autre.
Merci beaucoup, Séverine. C'est un trouble héréditaire, Eric Acquaviva, le TDAH.
Alors, héréditaire, en tout cas, c'est un trouble qui a une héritabilité assez élevée, c'est-à-dire dont, effectivement, l'origine génétique explique une grande partie du trouble. Il y a aussi des facteurs, bien sûr, liés à l'environnement qui favorisent l'expression du trouble.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'effectivement, si, et comme l'a dit très bien l'auditrice, si l'adaptation de l'environnement ne se fait pas, ou même que sur le plan éducatif, il y a des difficultés particulières, cela peut favoriser, bien sûr, l'expression et la gravité des symptômes. Et puis, il y a aussi un certain nombre de causes, notamment autour de la grossesse, la prématurité, l'hypotrophie, la consommation de tabac ou d'alcool pendant la grossesse, les traumatismes crâniens, qui peuvent être des facteurs étiologiques du trouble du déficit de l'attention.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Alors vous avez été diagnostiquée hyperactive sur le tard.
Oui, à 43 ans.
Mmh. Alors comment, pourquoi est-ce que c'est un diagnostic aussi tardif ?
Parce que moi, je pense que dans les campagnes, ils sont beaucoup plus... Je vis dans un tout petit village à la campagne. Et je pense que c'est plus facile, même si j'étais étourdie, même si j'ai écouté votre émission, j'avais exactement les mêmes symptômes. Je faisais du théâtre, je faisais du sport, j'étais très, très occupée. Et en fait, c'est pas passé pour une maladie ou pour un trouble. Par contre, j'ai vécu des injustices. Bon, je suis passée. L'adolescence, ça a été très difficile, puisque pas diagnostiqué non plus. Et puis c'est quand on a voulu voir avec mes enfants, comme c'est un caractère un peu génétique, là on s'en est rendu compte. Mmh.
Et au quotidien, comment ça se passe d'être un adulte atteint d'un TDAH ?
Ben moi j'étais obligée de prendre des médicaments, sinon je risquais de me faire virer entre guillemets, parce que c'est on est en conflit en permanence. La société fait pas d'efforts quand on dit qu'on a besoin de calme ou de voir. Quand il y a des choses très paradoxales, j'ai besoin d'autonomie et de beaucoup de cadres. Donc ça, les chefs ou quand on travaille, c'est impossible à comprendre ce genre de choses. Il faut beaucoup d'autonomie, de la passion, et dans un travail, c'est pas passionnant 35 heures par semaine. Enfin, c'est rare.
Comment se traduit, vous, votre TDAH ? Il y a plutôt une composante hyperactive liée à l'impulsivité, au déficit d'attention ?
J'ai les trois. C'est-à-dire que je suis rapidement familière, mais ça m'aide, ça, dans mon métier, parce que je suis documentariste, donc aller vers les gens, c'est super. Je suis rapidement familière. Je suis très impulsive. Je vais vite. Trop vite, donc je passe des choses par moment et je manque de rigueur. Donc il faut que je revienne sans arrêt sur ce que je fais, par contre.
Gabriel Val, est-ce qu'une hyperactivité qui débute dans l'enfance persiste à l'âge adulte ?
Oui, elle peut persister. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut s'atténuer avec l'âge. Donc certaines personnes s'en délivrent ou presque. Il reste un tempérament, mais sans grandes conséquences pour la vie professionnelle ou affective. Mais pour d'autres, au contraire, ça peut persister. J'ai mon plus vieux patient à 82 ans.
Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir appelé. Beaucoup de questions. Est-ce que le TDAH, c'est plutôt plus fréquent chez les garçons ou chez les filles, Eric Acquaviva ? Une idée reçue veut que ce soit les garçons qui soient le plus frappés de TDAH.
Chez l'enfant, effectivement, ce sont les garçons.
Donc ça, c'est vrai.
C'est vrai. C'est parce que probablement, il y a plusieurs hypothèses, mais l'expression chez les garçons se fait beaucoup plus sur le versant hyperactivité, impulsivité, donc avec beaucoup plus d'impact, et ce sont Donc les garçons qui sont peut-être le plus diagnostiqués.
En tout cas, chez les filles,
hypothèse. Et chez les filles, c'est plutôt les manifestations de type trouble du déficit de l'attention qui sont parfois révélées plus tard. Et d'ailleurs, le sexe ratio, c'est-à-dire le ratio garçon-fille, a tendance à s'égaler, c'est-à-dire qu'il devient à partir de, enfin, vers l'âge, au début, chez le jeune adulte.
Gabriel Val.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est un peu mystérieux d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plus de garçons que de filles dans la prime enfance et ensuite cela s'égalise. On considère par exemple que il est plus facile pour un homme TDAH de vivre parce que il a le mâle ou le père a un statut possible d'irresponsabilité. Alors que pour les femmes qui ont une vie professionnelle, une vie familiale, là ils sont confrontés à une impossibilité d'assumer toutes ces tâches et donc probablement c'est la raison pour laquelle on a plus de diagnostic, parce que en fait, quand nous parlons du sexe ratio, nous parlons du diagnostic. Nous ne parlons pas forcément de la réalité, puisque l'immense majorité, en tout cas en France, des TDAH ne sont jamais diagnostiqués.
Ah bon ?
Ah, bien sûr. Là, nous parlons d'une minorité diagnostiquée. La majorité des enfants TDAH en France, et d'ailleurs, je voudrais rassurer cette dame là qui vient de province, puisque nous sommes dans une période où on parle beaucoup d'inégalités territoriales. On peut être un petit Parisien, avoir consulté trois psychologues, trois psychiatres, et le terme TDAH n'a jamais été prononcé parce qu'il ne fait pas partie de la panoplie diagnostique de la majorité des pédopsychiatres en France, de la majorité des psychologues scolaires, de la majorité des psychiatres en général.
Thibaut de Saint-Maurice, quelle réflexion vous inspire notre sujet du jour ?
Ben, j'avais envie de attirer votre attention sur l'attention, justement, parce que vous allez voir, il me semble qu'avant même la parole, le rire, l'art, ou pour certains la méchanceté, c'est peut-être du côté de l'attention qu'il faut aller chercher, ce qui fait le propre de l'homme et ce qui remet sans cesse en jeu notre humanité. Alors, pour se convaincre d'abord de l'importance de la question, vous avez remarqué, Ali, quand un danger se présente, on le signale en disant justement... Attention.
Hartung.
Voilà. C'est une invitation, évidemment, à considérer le danger en question et à se concentrer dessus pour l'éviter ou l'affronter. Mais ça veut dire aussi que l'attention, c'est notre première arme. À la fois pour nous défendre des dangers qui nous guettent et aussi à la fois pour partir à l'assaut du monde et de l'existence.
Sauf qu'il est bien difficile d'être toujours attentif et de résister à tout ce qui sollicite notre attention.
Oui, parce que cette attention, elle a deux dimensions. Un côté pile, elle est ce qui me connecte à la réalité, ce qui me permet de me concentrer, de m'investir ou de m'engager tout entier dans une situation. Et puis côté face, elle est ce qui me fait aussi sortir de moi-même, ce qui me fait tendre vers le monde ou les autres. Être attentif, c'est donc un peu comme une sorte de respiration. C'est être tout entier là, mais aussi tout entier porté vers autre chose que soi. L'attention, elle doit donc être curieuse, ouverte et même parfois dispersée pour pouvoir s'appliquer. Le problème n'est donc pas d'être très sollicité par toutes sortes de choses et par exemple par des notifications ou des alertes sur son téléphone. Le véritable problème, c'est de pouvoir choisir les objets dignes de notre attention. Alors c'est ce qu'explique notamment l'universitaire Yves Citon, professeur de littérature à Paris 8, dans son livre qui s'intitule « Pour une écologie de l'attention ». C'est qu'il faut passer d'une économie à une écologie de notre attention, parce que face à tous les dispositifs qui assèchent nos ressources attentionnelles, il faut retrouver la maîtrise de notre attention. Alors l'idée, elle est belle, mais elle n'a rien d'évident, parce que notre attention, elle se laisse facilement attirer ou capter, là encore, par ces notifications et ces alertes sur les écrans qui nous entourent. Il faut donc gratter un peu et retrouver dans notre attention la part d'activité, la part d'effort et de travail qui consiste à se rendre attentif à quelque chose ou à quelqu'un. C'est à nous, au fond, qu'il revient de prêter notre attention ou non. Certes, nous sommes des êtres curieux et ouverts sur le monde, mais souvenons-nous de la grande leçon de la philosophie stoïcienne. On dispose aussi d'un pouvoir sur notre pensée et sur nos représentations. Alors soyons précis, on ne maîtrise pas toujours le surgissement de telle ou telle idée, de même que l'on ne maîtrise pas toujours toutes les sollicitations auxquelles nous sommes soumis, mais nous pouvons décider de considérer plus attentivement telle ou telle idée, telle ou telle sollicitation. Bref, ça veut dire qu'on n'est pas des éponges. Alors je dis pas que c'est facile encore une fois, mais je dis que c'est possible et que c'est en faisant l'effort de faire attention à notre attention que nous pouvons reconquérir le terrain de notre liberté, d'abord d'une liberté intérieure et ensuite de celle de notre liberté d'action. L'important, disait Sartre, c'est pas ce que l'on fait de nous, mais c'est ce que nous faisons nous de ce que l'on a fait de nous.
La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice est à voir également en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Dans quelques instants, on évoque la prise en charge de l'hyperactivité. Question témoignage au 01 45 24 7000.
là c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressé de rejoindre son cœur. Tu te lances dans cette fois tu t'en sortes.
Voyou interpréter les bruits de la ville.
Ali Rébé, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h48 et on s'intéresse ce matin aux idées reçues sur l'hyperactivité, plus précisément le TDAH, avec les pédopsychiatres Eric Acquaviva et Gabriel Val. Pour ceux qui nous prennent en route, pouvez-vous nous redire ce qu'est le TDAH et les principaux symptômes, Gabriel Val?
Le TDAH, donc, c'est un ensemble de trois symptômes, l'agitation, l'inattention et l'impulsivité, mais ils se distribuent de façon très inégale. Certains enfants sont surtout inattentifs, d'autres enfants sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois agités et inattentifs.
Et ça concerne évidemment les adultes aussi.
Ça concerne les adultes.
À Stuttgart, en Allemagne, Florian est hyperactif depuis l'âge de 3 ans. Sa difficulté à maîtriser son attention s'est répercutée dès l'enfance, aussi bien dans les activités du quotidien qu'à l'école. À la maison, c'était extrêmement frappant. Il a toujours fait tout tomber. À table, il se levait sans cesse, il était incapable de se tenir aux règles. C'était très difficile. Pour diminuer ses symptômes, le pédiatre de Florian lui prescrit du méthylphénidate pendant 7 ans, ce médicament qui stimule l'attention. Mais à 14 ans, Florian demande lui-même d'arrêter le traitement.
Mes notes sont remontées à l'école. J'arrivais à mieux me concentrer, à faire attention. À la maison, ça se passait mieux aussi. Mais intérieurement, je me sentais toujours agité. Et lorsqu'un jour, à l'école, on m'a dit que prendre des médicaments tous les jours n'était pas vraiment bon pour la santé, j'ai voulu arrêter de les prendre.
Extrait de l'émission Futur Mag sur Arte. Eric Acquaviva, Gabriel Val, la molécule de référence pour traiter l'hyperactivité, c'est donc le méthylphénidate que l'on retrouve dans la Ritaline ou le Conforta, c'est ça?
Alors il y en a quatre actuellement en France, et donc il y a la Ritaline, le Médiquinette, le Quasim et le Concerta, qui sont donc pour l'essentiel équivalents puisqu'ils ont le même principe actif qui est donc le méthylphénidate.
Alors ce sont des psychostimulants qui font peur, Marc nous dit sur notre page Facebook, est-ce que le traitement par Ritaline peut engendrer une dépendance chez les enfants hyperactifs? Et comment peut-on sevrer un enfant sous Ritaline?
Alors, il faut préciser que ces médicaments bénéficient d'une expérience très ancienne. Ils ont été découverts il y a plus de 50 ans. Donc, quand on prescrit aujourd'hui ce médicament, on a derrière soi, en quelque sorte, 50 ans de pratique universelle. Même si la France est très en retard et ne le prescrit que depuis 20 ans ou 22 ans, on bénéficie de 50 ans d'expérience. Et donc, il y a un certain nombre de choses maintenant que nous savons de façon extrêmement claire, et notamment qu'il n'y a aucune dépendance et aucune accoutumance avec ce médicament. Et je voudrais préciser même que le parcours des enfants hyperactifs, pour une petite part d'entre eux, est souvent catastrophique. C'est-à-dire qu'on a un échec scolaire, une déscolarisation, une désocialisation et des conduites à risque, comme par exemple la toxicomanie. Eh bien, quand on compare les enfants hyperactifs qui ont bénéficié de ce traitement et les enfants hyperactifs qui n'en ont pas bénéficié, on a beaucoup plus de risques de toxicomanie chez les enfants qui n'ont pas pris le traitement en comparaison de ceux qui ont pu en bénéficier.
Quel est l'intérêt de ce type de psychotrope? Ça stimule la dopamine qui est fortement impliquée dans le TDAH, Eric Aquaviva?
Oui, tout à fait. Ça va en tout cas stimuler. Alors, en tout cas, ça stimule effectivement la dopamine et la noradrénaline, pour résumer les choses.
Expliquez-nous pourquoi c'est important pour comprendre le TDAH, la dopamine et la noradrénaline.
Parce que l'hypothèse centrale du trouble du déficit de l'attention, c'est effectivement une hypothèse hypodopaminergique et hyponoradrénergique.
C'est-à-dire?
Donc, il y a un manque de dopamine et de noradrénaline qui donc serait compensé avec ce traitement par méthylphénidate, qui va activer des aires cérébrales et des circuits neuronaux qui vont concerner notamment les circuits de l'inhibition. C'est-à-dire que le trouble de l'inhibition est assez central dans le trouble du déficit de l'attention. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont avoir du mal à filtrer leurs réactions, du mal à filtrer certaines informations non pertinentes et du mal à stopper un processus psychique ou moteur dans lequel ils sont. Et ce traitement va permettre un meilleur contrôle. En activant les circuits dopaminergiques et noradrénergiques.
Quels sont les effets secondaires? Est-ce qu'il y a des risques d'addiction?
Alors, on l'a dit, des risques d'addiction, non. Des effets secondaires et des risques, oui, comme tout traitement, il y a des bénéfices et des risques. Les principaux risques qui ont été documentés ont été les risques notamment cardiologiques. Et il est important avant le traitement de faire un examen cardiologique afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de trouble du rythme cardiaque qui serait décompensé par le traitement ou une élévation de la tension artérielle. Il faut surveiller aussi la croissance de ces enfants pour surveiller qu'il n'y ait pas de ralentissement de la croissance.
Est-ce que vous êtes lié à l'industrie pharmaceutique, Gabriel Valle ou Eric Aquaviva, pour la clarté du débat? Non, mais il y a peut-être des auditeurs qui se posent la question, certainement.
Non, pas de conflit.
Eric Aquaviva. Je n'ai pas de contrat particulier.
Quelles sont les autres molécules psychostimulantes pour traiter l'hyperactivité?
Il y en a peu en France. On a l'atomoxétine, mais qui n'est pas en distribution pharmaceutique banale. Donc, en effet, à part le méthylphénidate, nous disposons de très peu de choses. Mais sur la planète, on a beaucoup plus de choix.
Bonjour Théo, vous appelez de la région parisienne. Bienvenue dans l'émission.
Bonjour, moi je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, je suis étudiant en fait de physique à Cergy et je suis hyperactif depuis ma naissance et je suis diagnostiqué depuis 14 ans, quelque chose comme ça. Ma question est la suivante, c'est pourquoi un psychiatre principalement. Quand il arrive, parce que j'ai pris ma Ritaline je prends de la Ritaline depuis l'âge de 14 ans et lors du passage à l'âge adulte entre guillemets vers 16-17 ans, mon psychiatre m'a dit je peux plus vous suivre, il faudrait que vous alliez vers un psychiatre adulte. Et moi j'aimerais bien savoir comment on peut accompagner parce que moi j'ai pas du tout été accompagné pour ça. Et ni accompagné d'un point de vue psychologique ou
la psychothérapie.
Relationnel et comment j'explique. On m'a pas expliqué en fait ce que ça allait impliquer chez moi pour par exemple la période d'adolescence et voilà.
Gabriel,
ma question c'est celle-ci.
Gabriel,
comment
on
peut accompagner les enfants dans l'adolescence avec Ritaline et un suivi psychologique.
Voilà. Accompagnement avec une psychothérapie, hein, c'est ça Théo. Hein.
C'est ça, c'est la question.
Gabriel Val, est-ce que la psychothérapie est indiquée dans le cas du TDAH, de l'hyperactivité?
Elle n'est pas indispensable. Elle n'est pas indispensable au sens de la psychothérapie classique. En revanche, ce qui doit être impératif, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants, les adolescents et les adultes hyperactifs deviennent des experts sur la question pour bien comprendre leur fonctionnement, pour bien comprendre leurs difficultés, pour tenter de les surmonter. Donc c'est véritablement important que un enfant, un adolescent, un adulte hyperactif puisse comprendre de quoi il souffre. Et il y a pour cela, bien sûr, l'aide des psychiatres, mais encore une fois, tous les psychiatres ne sont pas sensibilisés à cela, surtout les psychiatres d'adultes. Donc il y a des associations, par exemple TDAH France, collectif Parents TDAH Ouest, etc., qui peuvent véritablement apporter une grande aide. Il y a les forums, il y a des ce qu'on appelle aussi les pratiques pour l'habileté parentale, donc des groupes entre parents sous l'égide d'un psy qui permettent de bien avancer.
Éric Acquaviva, la psychothérapie?
Oui, il faut rappeler quand même que le traitement médicamenteux est un traitement de seconde intention en trouble du déficit de l'attention. Et donc la première intention, c'est effectivement les approches alternatives, notamment, enfin c'est pas alternatif puisque elles sont primaires, c'est la psychoéducation de façon à adapter au mieux l'environnement des enfants de la part des parents d'une part, de la part de l'école. Et puis il y a aussi des approches maintenant cognitives et comportementales. Nous parlions tout à l'heure du mindfulness, c'est-à-dire de la thérapie en pleine conscience, ou d'autres
méditation
approches
de pleine conscience.
Tout à fait. Et des approches cognitives et comportementales aussi qui visent, puisque là, ce jeune homme parlait du passage à l'âge adulte, et je pense que c'est très important à cet âge-là, qui visent notamment à mieux comprendre son trouble, ce qu'on appelle les approches métacognitives, c'est-à-dire que le jeune puisse mieux comprendre sa façon de fonctionner, notamment sur le plan cognitif.
Merci beaucoup Théo de nous avoir appelé. Quels sont les conseils, Gabriel Val, que vous donneriez aux parents pour rompre avec des situations conflictuelles? Vous donnez quelques conseils dans votre que sais-je?
Oui, quelques conseils. Alors, relations conflictuelles au sein de la vie familiale, bien évidemment. Il y a un premier conseil qu'on peut donner, c'est distinguer l'essentiel de l'accessoire. Pour éviter une conflictualité permanente, il faut se donner des objectifs pour l'essentiel, par exemple la scolarité, le respect verbal, le respect physique, mais il ne faut pas faire de tout micro-événement de la vie un conflit. Par exemple, si un enfant ne range pas sa chambre, il ne faut pas y consacrer tous les jours 20 minutes pour qu'il l'arrange. On peut se contenter par exemple de dire ça me ferait plaisir si tu m'aidais, et hop, on évite un conflit. Parce que le problème des enfants hyperactifs, c'est qu'ils sont dans une conflictualité permanente toute la journée. Ça devient un mode de vie et donc ça crée une agressivité secondaire dans la relation avec les adultes et avec l'autorité.
Merci beaucoup Gabriel Val. Je recommande votre Que sais-je consacré, il y en a plusieurs, hein, sur les enfants hyperactifs et sur les adultes hyperactifs. Éric Acquaviva, on peut lire avec profit votre petit livre « Les idées reçues sur l'hyperactivité au cavalier bleu ». Demain, nous mettrons quelques penseurs au banc d'essai, quelques philosophes, avec le fondateur et directeur de sciences humaines, Jean-François Dortier, et avec les professeurs de philosophie, Laurence de Villers et Thibaut de Saint-Maurice. Hein, vous revenez demain.
Absolument.
À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Loïc Frapsos. À suivre la bande originale de Léla Cadour et Daniel Morin, qui reçoivent Renaud Capuçon et Laurent Delmas.